VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du lundi 15 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, le nouveau pouvoir militaire veut que les partis politiques s'entendent sur un indépendant pour le poste de Premier ministre.
En Algérie, une quarantaine de maires refusent à leur tour d'encadrer l'élection présidentielle du 4 juillet.
Libye, rencontre au Caire entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar.
La France a décidé de geler les avoirs de plusieurs responsables burundais.
Ivanka Trump, la fille du président américain Donald Trump, a entamé hier une visite dans deux pays africains.
Ici à Washington, publication aujourd'hui ou demain d'une version expurgée du rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Soudan, la rue ne lâche pas et demande au prochain gouvernement civil de juger Omar al-Béchir, déchu par l'armée. Le nouveau pouvoir militaire appelle les partis politiques à s'entendre sur une figure indépendante pour devenir Premier ministre. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les militaires appellent aussi la classe politique à s'entendre sur la composition d'un gouvernement civil réclamé par les manifestants. Ces derniers maintiennent la pression. Des milliers de Soudanais campent toujours devant le QG de l'armée à Khartoum. Nous continuerons à organiser nos sittings jusqu'à satisfaction de nos demandes, a clamé Omar El-Degueir, l'un des chefs de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 19 décembre. Le conseil militaire de transition semble donc aller dans le sens des manifestants en demandant à des responsables de partis politiques de se mettre d'accord sur une personnalité indépendante qui deviendrait Premier ministre et sur un gouvernement civil. Mais les contestataires vont même plus loin. L'Association des professionnels soudanais appelle le futur gouvernement de transition et les forces armées à faire juger Béchir. Plus tôt, le ministère des Affaires étrangères avait appelé la communauté internationale à soutenir le conseil militaire de transition dans le but de répondre à la volonté du peuple soudanais de réaliser une transition démocratique.
En Algérie, après des magistrats, une quarantaine de maires sur les 1500 que compte le pays ont annoncé hier le refus d'encadrer l'élection présidentielle du 4 juillet en signe de soutien à la contestation en cours contre le régime. Selon les contestataires algériens, les structures et personnalités issues du système mis en place par le président déchu Abdelaziz Bouteflika et qui sont chargées d'organiser la présidentielle devant élire son successeur ne permettent pas de garantir un scrutin libre et équitable.
En Libye, les forces du gouvernement d'Union nationale ont annoncé hier avoir abattu un avion de chasse de l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar. Ce dernier a par ailleurs été reçu hier au Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Le point avec Jean-Roger Bion.
Abdel Fattah al-Sissi est l'un des plus fervents soutiens du maréchal Haftar. Selon les médias égyptiens, les deux hommes ont discuté des derniers développements en Libye sans donner davantage de détails. Cette visite de l'homme fort de l'Est libyen intervient alors que l'offensive que ses forces ont lancée le 4 avril pour tenter de prendre le contrôle de Tripoli, où est basé le gouvernement de transition, s'est révélée plus longue que prévu. Les positions des deux camps rivaux libyens sur le front semblent figées. En plus des 121 morts, les combats ont également fait plus de 560 blessés, selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le bureau de l'OMS en Libye a par ailleurs condamné sur Twitter les attaques répétées contre le personnel soignant et les ambulances dans les environs de Tripoli. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, a fait état de 13 500 personnes déplacées par les combats, dont 900 ont été hébergées dans des centres d'accueil. De son côté, la mission de l'ONU en Libye a rappelé que le droit humanitaire international interdit formellement de bombarder des écoles, des hôpitaux, des ambulances et des zones civiles.
Le commandant adjoint de l'organisation État islamique en Somalie, un groupe différent des Chebab affiliés à Al-Qaïda, a été tué dans une frappe aérienne dimanche. Selon le ministre de la Sécurité du Puntland, la frappe a eu lieu alors que le commandant Abdi Hakim de Kob et un complice présumé se déplaçaient en voiture. Le véhicule a été complètement détruit, ont dit des témoins. Le ministre n'a pas précisé qui avait mené la frappe, mais on sait que les militaires américains en Afrique ont effectué, rien que cette année, plus de 30 frappes aériennes en Somalie, toutes contre Al-Shabaab.
La France a décidé de geler les avoirs de plusieurs responsables burundais. Paris les accuse d'atteinte à la démocratie ou d'actes de violence en 2015, à l'annonce d'une troisième candidature du président Pierre Nkurunziza. Le point avec Abdourahman Dia.
Le directeur général adjoint de la police nationale, Godefroy Bizimana, est le premier visé. Il lui est reproché d'avoir porté atteinte à la démocratie et de recours disproportionné à la force et actes de répression violente des manifestations d'opposants ayant suivi l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza. Un chef de cabinet de la présidence, Gervais Ndirakobuka, est lui accusé d'avoir ordonné un recours disproportionné à la force face aux manifestants. Quant à l'ancien chef de mission de la présidence, Léonard Nguendakoumana, Paris estime qu'il est responsable d'actes de violence et d'attaques à la grenade contre les manifestants. Enfin, un agent de service de renseignement, Mathias Joseph Nyonzima, aurait, je cite, incité à la violence et formé les milices paramilitaires Imbonerakure, responsables de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi. Fin de citation. Les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés par les personnes mentionnées sont gelés, précise l'arrêté en date du 11 avril, entré en vigueur hier pour une durée de 6 mois.
Ivanka Trump, la fille et conseillère du président américain Donald Trump, a entamé hier une visite dans 2 pays africains. C'est pour promouvoir une initiative américaine visant à promouvoir l'emploi des femmes dans les pays en développement. Le point avec Jean-Roger Bion.
Arrivée hier à Addis Abeba où elle va passer 2 jours, Ivanka Trump se rendra ensuite en Côte d'Ivoire pour 48 heures également. En Éthiopie, elle va visiter des projets gérés par des femmes avant de prendre part ce lundi à un sommet de la Banque mondiale. Elle a déclaré qu'investir dans les femmes est une décision intelligente concernant la politique de développement et les affaires. En Côte d'Ivoire, elle va rencontrer des femmes évoluant dans le secteur du cacao. Sur place, Ivanka Trump prendra part à une réunion sur les opportunités économiques des femmes d'Afrique de l'Ouest. Son voyage de 4 jours vise à promouvoir l'initiative américaine dotée de 50 millions de dollars visant à outiller les femmes dans les pays en développement pour faire face aux défis du sous-emploi. Un programme qui prend fin en 2025. Lancée en février dernier, l'initiative Women's Global Development and Prosperity vise à former des femmes et à les aider à obtenir des emplois bien rémunérés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, on s'attend à la publication, aujourd'hui ou demain, d'une version expurgée du rapport de 400 pages du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Monsieur Mueller a consacré 22 mois à son enquête pour déterminer s'il y avait eu coordination entre la campagne du candidat Donald Trump et Moscou, et si, une fois président, M. Trump s'est rendu coupable d'obstruction de la justice. Dans un résumé de ce rapport, le ministre de la Justice, William Barr, avait dit que M. Mueller avait conclu à l'absence de collusion avec la Russie, mais qu'il n'était arrivé à aucune conclusion concernant le deuxième point. Il avait exclu ainsi toute charge à ce sujet. Pour sa part, l'opposition démocrate insiste sur la publication du rapport dans son intégralité, tandis que M. Trump et la Maison-Blanche soutiennent que le président a été totalement exonéré par M. Barr et son adjoint Rod Rosenstein, qui supervisait l'enquête.
Pete Buttigieg, le jeune maire ouvertement gay d'une ville de l'Indiana, a lancé officiellement dimanche sa candidature à l'investiture démocrate pour 2020. L'ambition de ce jeune progressiste de 37 ans, devenu un phénomène de ce début de campagne présidentielle, déloger de la Maison-Blanche Donald Trump, qu'il a accusé de vendre un mythe aux communautés rurales et industrielles, selon lequel, je cite, « on pourrait arrêter le temps et revenir en arrière ». C'est une allusion au slogan du candidat Trump « rendre sa grandeur à l'Amérique ».
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo ne pense pas que le peuple vénézuélien va tolérer encore longtemps le régime de Nicolas Maduro. Monsieur Pompeo a cité la dévastation dont seul ce régime est responsable, la situation humanitaire tragique et le fait de choisir d'amener les Cubains et de permettre aux Russes d'intervenir dans le pays. Toutes des choses, qui a-t-il dit au journal péruvien El Comercio, qui détruisent la vie des jeunes au Venezuela. Le chef de la diplomatie américaine achevait hier une tournée dans 4 nations d'Amérique du Sud, au cours de laquelle le Venezuela était au centre de ces discussions. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Morgane Guiriec.
La Banque mondiale veut investir 15 milliards de dollars dans le capital humain en Afrique entre 2021 et 2023. L'Afrique subsaharienne est la région du monde où l'indice du capital humain de la Banque mondiale est le plus faible, en liaison avec les taux élevés de mortalité et de retard de croissance dans la région, ainsi que par les résultats d'apprentissage inadéquats des élèves, qui ont tous un effet direct sur la productivité économique, estime Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale. Avec son plan pour le capital humain en Afrique, la Banque mondiale se mobilise pour aider le continent africain à mieux investir dans sa population et à relever les indicateurs de survie, de santé, d'éducation, de protection sociale et d'émancipation des femmes à l'horizon 2023. La Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire a annoncé avoir mobilisé 487,1 milliards de francs CFA de recettes fiscales au premier trimestre 2019 pour un objectif initial de 511,8 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 96%. Ce résultat est toutefois en hausse, 19,5 milliards de francs CFA par rapport au premier trimestre 2018. En termes de recouvrement, plusieurs impôts et taxes parmi lesquels les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les patentes, les droits d'enregistrement de l'anarcade et l'impôt sur le revenu des créances ont favorisé cette hausse des recettes du premier trimestre 2019.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 15 ans qui a débuté hier en Tanzanie avec la défaite du pays hôte face au Nigeria.
Mené 4-3, les joueurs nigériens ont renversé la situation en seulement 7 minutes en seconde période en l'emportant finalement 5-4. Dans l'autre rencontre du groupe A, l'Angola s'est imposée face à l'Ouganda 1-0. Ce lundi, dans le groupe B, le Cameroun double tenant du titre affronte la Guinée et en deuxième heure, le Maroc jouera le Sénégal.
Coupe d'Afrique des clubs cette fois avec les quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération.
Oui, avec la qualification du CS Fassien, vainqueur hier 2-0 de Nkana sur sa pelouse, suffisant malgré la défaite en Tanzanie 2-1 à l'aller. Le club tunisien affrontera en demi-finale la Renaissance de Berkane qui a facilement écarté Gomaya. Les Marocains, déjà vainqueurs au Kenya 2-0, ont cette fois emporté 5-1.
Ça passe aussi pour le Zamalek du Caire.
Les Égyptiens ont fait le strict minimum pour venir à bout du Hassania d'Agadir, tenu en échec 0-0 à l'aller. Ils l'ont emporté 1-0 sur leur pelouse. En demi, ils affronteront le vainqueur de la confrontation entre Al Hilal du Soudan et les Tunisiens de l'Étoile du Sahel. Le match retour prévu au Soudan a été reporté pour raison de sécurité, la situation politique actuelle du pays.
On connaît également les qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Le tout-puissant Mazembe a dominé les Tanzanais de Simba à l'occasion des quarts de finale de cette Ligue des Champions. La victoire 4-1 à Lumumbashi après un nul 0-0 à l'aller. C'est une première pour les Corbeaux depuis 2015, année de leur cinquième sac continental. En demi-finale, le club congolais va affronter le champion d'Afrique en titre, l'Espérance de Tunis, qui a écarté les Algériens du CS Constantine, score 3-1 à domicile.
Comme en 2018, le Oroya de Conakry s'arrête en quart de finale.
Et cette fois, c'est Wydad de Casablanca, champion d'Afrique en 2017, qui lui a barré la route. Après un match nul et Viège à domicile. Les Guinéens ont explosé lors du match retour au Maroc, défaite 5-0. Le club marocain, de son côté, affrontera le Mamelodi Sundowns, champion d'Afrique 2016 en demi. Le club sud-africain, battu 7-0 sur le terrain d'Al Hilal du Caire, mais vainqueur largement à l'aller 5-0. Rendez-vous donc dans deux semaines pour les matchs aller de cette demi-finale.
Cyclisme avec l'épilogue hier du Tour du Maroc avec le sacre de Laurent Evrard.
Le coureur belge a remporté la 32e édition de cette course à Casablanca. Au classement général, il devance de plus de 4 minutes le Britannique Edmund Bradbury et le Français Louis Pejolet. C'est le Russe Maxime Pikunov qui s'est imposé à l'issue de la 10e et dernière étape entre Ceuta et Casablanca. Et puis, du basketball pour finir. Et avec vous, les résultats des matchs joués la nuit dernière.
Premier tour des playoffs, Boston a battu Indiana 84-74. Portland a eu raison d'Oklahoma City 104-99. Milwaukee a battu Détroit 121-86. Et Utah a été battu par Houston 122-90. nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, s'est tenu ce week-end à N'Djamena, la capitale, où il a été question de la sécurité, de la situation sécuritaire au Soudan et en Libye. Le point avec notre correspondant sur place, André Kodmadjingar.
La conférence extraordinaire de N'Djamena vise à réactiver l'organisation en lui donnant un souffle nouveau à travers l'entrée en vigueur de son traité révisé, car la dernière rencontre des chefs d'État de l'espace sahélo-saharien date de 2013. Depuis ce jour, l'organisation n'est plus que l'ombre d'elle-même. La rencontre de ce week-end à N'Djamena s'est tenue sans le président soudanais, contraint à la démission par son peuple, et le président du Conseil national de transition libyenne, dont le pays abrite le siège de la CENSAD. Mais cela n'a pas empêché les autres chefs d'État et de gouvernement d'adopter une déclaration commune par rapport à la situation de crise que traverse ce pays. Kamissa Camara est la chef de la diplomatie malienne.
La conférence lance à toutes les parties libyennes un appel à observer un cessez-le-feu immédiat, à relancer le dialogue national et à se conformer au plan d'action pour la Libye des Nations Unies. La conférence a exprimé sa préoccupation face à la situation au Soudan et lance un appel à tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue et la concertation en vue de l'instauration d'une transition pacifique.
Pour Dobien Assingar, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, c'est le manque d'alternance politique en Afrique qui serait à l'origine de ce désordre.
Les États font n'importe quoi. Et quand ça leur pète à la gueule, ils s'étonnent que ça arrive. Ils sont là à tordre le cou à la Constitution et à leurs propres lois. Ils organisent des élections qu'ils ne perdent jamais. Quand il n'y a pas d'alternance politique, quelle voie il vous reste? Le peuple en a marre. Il s'est exprimé au Soudan parce que le pouvoir appartient d'abord au peuple. Il a récupéré son pouvoir. Il en fera ce qu'il veut. C'est pas la petite CENSAD là qui va faire quelque chose pendant que l'ONU est en train de tenir des réunions pour statuer sur le cas de la Libye. Quand il y a eu un incendie quelque part et que le vent souffle, ça risque de venir chez le voisin. Donc c'est normal que ses voisins soient apeurés.
Abdraman Gasnabaï, ambassadeur de la paix auprès de la francophonie, se félicite plutôt de ces résolutions qui, selon lui, vont contribuer à l'apaisement de la situation dans les deux pays.
Il faut espérer. La Libye se trouve dans une situation de combat et au niveau du Soudan, la situation aussi évolue de jour en jour. Donc rien n'est définitivement réglé ni dans l'un ni dans l'autre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens vont dans le sens de l'apaisement au Soudan et la proposition de la CENSAD vient renforcer cette position-là.
Compte tenu de l'insécurité en Libye, le sommet a décidé de la délocalisation du siège de la CENSAD provisoirement à N'Djamena et le président Déby reste aux commandes jusqu'à la mise en place prochaine du secrétariat de l'organisation. André Kodmadjingar, N'Djamena, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi était attendu hier soir à Goma, capitale du Nord Kivu, après une visite à Lubumbashi. Compte rendu de notre correspondant Narval Mabila sur le séjour Katangé de M. Tshisekedi.
Arrivé à Lubumbashi le vendredi avec un vol régulier de Congo Airways, le président Félix Tshisekedi a été accueilli à l'aéroport international de Lalano par une foule immense et tout le long du parcours de son cortège, il était acclamé jusqu'à sa résidence officielle sur l'avenue Kamagnola. Voici la réaction des quelques Louchois rencontrés le long de la route.
Je suis d'abord heureuse moi-même, vu qu'on a fermé nos bureaux, on est tous là en train d'attendre l'élu du peuple. Il y a tellement beaucoup de gens, tous curieux, nous voulons voir. C'est lui qu'on a voté hier. Hier, il est venu en tant que candidat. Mais aujourd'hui, il vient dans une autre peau qui est celle de président de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on est là.
Trois grandes activités étaient à l'ordre du jour pour son séjour à Lubumbashi. Réunion du Conseil supérieur de la Défense, inauguration du nouveau parking moderne de la Direction générale des douanes Axis à Kasumbalesa annulée et la rencontre avec le notable Katangé. Voici le compte-rendu du Conseil supérieur de la Défense tenu au gouvernorat de la province du Haut-Katanga le samedi qui a commencé à 9h32 et terminé à 16h30 heure locale, lu par le ministre de la Défense ad l'intérim, Michel Bongongo.
Il a été constaté un déficit criant d'encadrement des hommes des troupes, aussi bien de la police que de l'armée, tourné vers le détachement dans le gardiennage et dans les sociétés minières et l'insuffisance des moyens logistiques. Sur ce point, le Conseil supérieur de la Défense a décidé pression de tout détachement des policiers, des militaires, ainsi que des éléments de JR dans le gardiennage et dans les des sociétés minières. Cette décision ne concerne pas seulement le Haut-Katanga, mais toute l'étendue du territoire national.
Félix Tshisekedi a reçu les notables Katangais et la société civile. Ghislain Kaloua, président de la société civile, donne sa réaction.
Effectivement, nous avons vu l'arrivée du chef de l'État. C'est que nous saluons parce que il a choisi en premier lieu la province du Haut-Katanga et cela face aux défis à relever par rapport à notre province, notamment le problème de l'insécurité. Et il faut dire aussi qu'il nous a accordé même une audience et au cours de l'échange, nous avons été content du fait qu'il a souligné que sa devise, c'est le peuple d'abord et qu'il ne va pas transiger face aux antivaleurs, notamment l'impunité, la corruption, l'injustice.
Un séjour du président Félix Tshisekedi, vu par un louchois.
Ça, nous, on ne s'intéresse pas, nous sommes en insécurité à tout moment. Comment est-ce qu'on peut s'intéresser avec lui? Donc, il n'est pas au besoin de la société. Hein. Parfois, ça nous dérange. Quand un président est dicté à chaque moment avec notre ennemi juré, il ne doit pas travailler avec les systèmes Kabila, comme on l'a fait en Algérie. Il ne faut pas travailler avec les gens qui ont tué les pays.
Lubumbashi Narval Mabila pour VOA Afrique.
Au Mali, l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 est contesté, alors que le président Ibrahim Boubacar Keïta tient à cette révision dans un contexte sociopolitique difficile. Plusieurs partis politiques rejettent le document qui doit être soumis aux députés à cause de l'élaboration de ce document par un comité d'experts. De Bamako, Kassim Traoré nous en dit plus.
La constitution du 25 février 1992 en vigueur au Mali doit être révisée. Le président Ibeka, initiateur du processus de révision, veut une démarche inclusive. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Nous avons estimé à ce niveau du parcours, il serait convenable, souhaitable et de profit avéré que nous acceptions tous de revoir notre constitution de 92 qui a fait son œuvre, qui a fait son travail, mais qui à l'époque du temps a eu également à en subir l'usure. C'est dans un tel contexte que nous avons, en dépit de notre douleur, pensé que notre pays ne pouvait pas, ne doit pas être à l'arrêt, qu'il doit continuer sa marche.
Pour ce faire, le travail effectué par le comité d'experts de révision constitutionnelle doit être remis aux sensibilités politiques et sociales du pays. L'opposition n'est pas d'accord avec cette démarche. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
La révision constitutionnelle apparaît aux yeux de nos interlocuteurs comme la seule priorité du moment. Ceci est aux antipodes de notre ambition pour le Mali. Mali debout, réconcilié, sécurisé, uni et solidaire. C'est pour cette raison que nous avons décliné l'invitation qui nous a été faite de participer à une cérémonie de remise de l'avant-projet de réforme constitutionnelle à Koudouba le 10 avril 2019.
Le président du parti phare en Ngaouli, l'ancien premier ministre, est parti répondre à l'appel du président Ibrahim Boubacar Keïta. Modibo Sidibé préconise un dialogue national refondateur.
Toucher ou conduire des réformes institutionnelles sans ce dialogue national fondateur ne nous semblait pas indiqué pour être dans une dimension de sortie de crise durable et stable pour notre pays. Parce que nous sommes conscients qu'il faut véritablement qu'il y ait un agenda du Mali et que ce soit un agenda du Mali qui soit conduit et qui soit respecté par les uns et les autres, qui donne un horizon aux Maliens, qui les rassure que nous sommes en total déphasage avec la démarche qui a été conduite par le gouvernement et que le projet qui en est sorti n'aura pas notre soutien dans un processus référendaire.
Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile du Mali.
C'est l'inclusivité qu'ils doivent observer pour que l'avant-projet de loi soit un avant-projet réellement qui prend en compte les aspirations de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Mais puisqu'il s'agit de la loi fondamentale, on doit donner beaucoup plus de temps pour que tous les acteurs de la vie civile puissent s'y pencher et enrichir cette constitution pour que pendant 100 ans encore, nous ne reviendrons plus sur cette constitution.
Malgré la divergence de points de vue, le président Ibeka trouve qu'il ne sera pas seul pour mener la révision constitutionnelle.
Nous avons entamé un dialogue qui se poursuit, dont certains de mes frères qui, pour des raisons qui leur appartiennent, n'ont pas pu devoir venir à Koudouba, qui étaient venus, qui sont encore absolument disponibles pour la poursuite de ces échanges. Dès lors, rien n'est perdu. Et moi, je n'ai pas le choix, mon devoir, c'est de coudre.
Et je le ferai avec vous.
Je ne serai pas seul, je ne serai pas esselé. Je sais en commun de vous.
Au moment où Iweka parle de révision constitutionnelle, il y a une vive tension sociopolitique à Bamako. Beaucoup de Maliens demandent aujourd'hui la démission du Premier ministre et les enseignants sont dans l'attente de la satisfaction de leurs revendications. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Burkina Faso lance officiellement sa campagne cotonnière 2019-2020. L'association interprofessionnelle du coton du Burkina a réuni, comme à l'accoutumée, l'ensemble des producteurs du pays pour expliquer les nouvelles mesures prises et la stratégie à suivre pour atteindre l'objectif de production cotonnière et relever le niveau du coton burkinabé. Des détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Principal regroupement professionnel des sociétés cotonnières du Burkina et interlocuteur entre l'État et les acteurs de la filière coton, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina a annoncé des mesures pour encourager les producteurs et du même coup améliorer la production cette année. Le directeur général de la société burkinabé des fibres textiles, Wilfred Yamiogo.
Deux questions fondamentales que sont donc l'augmentation du prix d'achat du coton grain aux producteurs et la réduction du prix de cession des intrants ont trouvé une solution.
Le prix d'achat du coton grain est l'une des problématiques de la filière. Tous les efforts ont cependant été faits afin d'améliorer ce prix, assure le secrétaire général de l'association interprofessionnelle du coton, Ali Compaoré.
L'année dernière, nous avons acheté le coton à 250 francs le kilogramme du coton grain bord champ. Cette année, nous allons l'acheter à 265 francs. Donc c'est une augmentation de 15 francs par kilogramme donc de coton grain.
Ces nouvelles dispositions ont été assez bien accueillies par les producteurs, à l'instar de Yakuba Koura, cotonculteur de la province du Gourma à l'est du pays.
On peut dire en tout cas que les revendications ont eu gain de cause parce que par rapport aux apurements des impayés, la filière coton a annoncé une contribution à hauteur de 4 milliards. Au niveau des prix des intrants, c'est vrai, il y a une légère baisse de 1000 francs par sac. Monsieur le Burkina Faso par rapport à cet engagement-là.
Les soucis ayant conduit à la baisse de rendement, notamment le boycott de certains producteurs, sont-ils résorbés pour autant? Le secrétaire général de l'association interprofessionnelle du coton semble plutôt confiant, Ali Compaoré.
Tout ce qui se passe en termes de boycott, de contestation, c'est parce que de plus en plus, le producteur individuel n'a plus le revenu escompté. Et je crois que des mesures donc sont déclinées pour rassurer les gens que en faisant du coton, ils devraient pouvoir, en tout cas, rentrer en possession de ce qu'on leur doit.
Les producteurs dont la dette interne a été apurée avec le soutien de l'État sont décidés à reprendre le travail. Ils pensent pouvoir atteindre, à l'image de Yakuba Koura, l'objectif de la campagne actuelle.
Bon, en tout cas, pour les 800 000 tonnes, les mesures qui sont faites vont nous permettre vraiment à relever les défis. Si vraiment la pluviométrie est au rendez-vous, on pense que ces objectifs peuvent être atteints.
Un objectif qui reste également tributaire de la sécurité, notamment dans la région de l'Est, grande pourvoyeuse de coton grain, afin de ramener le Burkina Faso, actuel quatrième producteur africain, à retrouver son leadership d'antan. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le Top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daniel Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.